Radio Kapi.
À la une de ce journal sur Radio Kapi, plus de 80 enseignants du territoire de Gungu se demandent où serait parti leur salaire du mois d'octobre. La banque Ecobank, qui les paye naturellement, dit que leurs rémunérations ont déjà été perçues alors qu'eux-mêmes, les enseignants, ne le reconnaissent pas. La société civile entre en jeu et demande que la lumière soit faite. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme apporte son assistance financière aux avocats qui assistent les accusés dans le procès du meurtre des experts de l'ONU au Kasaï. Le bâtonnier du barreau du Kasaï central parle d'un acte de reconnaissance pour le travail que font ces avocats et les appelle à la prise de conscience dans cette affaire. L'administrateur du territoire de Lubero plaide pour l'ouverture des routes donnant accès au lac Édouard. Le territoire de Lubero occupe 80% de la côte ouest du lac Édouard, mais il n'existe aucune route donnant accès à l'intérieur de ce territoire à partir du lac. Cet état de choses engendre de graves conséquences sécuritaires et économiques. Richard Nyembo, administrateur du territoire de Lubero, est l'invité de ce journal sur Radio Kapi. Voilà pour les titres, vous êtes tous les bienvenus. Commençons ce journal par la province du Kwilu. Plus de 80 enseignants de cette école du territoire de Gungu se disent victimes du détournement de leur salaire du mois d'octobre, salaire qu'ils perçoivent généralement à Ecobank. Le président de la société civile du territoire de Gungu, qui parle au nom des enseignants, renseigne que Ecobank a dit à ce client enseignant que leur salaire avait déjà été retiré alors que les concernés ne reconnaissent pas l'avoir fait. Ils demandent que justice soit faite pour que les auteurs de cette arnaque puissent répondre de leurs actes et que leur réseau mafieux soit démantelé. Plus de précisions avec vous, Irène Beaumont.
Ils sont au total près de 87 enseignants issus de cette école dans les sous-divisions de Gungu 1, 2, 4 et 5 situés dans les territoires des mêmes noms qui sont victimes d'une arnaque de la paye du mois d'octobre dernier. Parmi ces 7 écoles, 3 sont du secondaire et 4 du primaire. C'est la société civile de ce territoire qui livre cette information à Radio Okapi. À en croire le dire de son président qui déplore cette situation, ces enseignants se sont rendus aux différents sites de paye de cette banque pour se faire payer. Sur place, l'Ecobank leur affirme que l'argent a déjà été servi aux bénéficiaires. Joachim Kusamba explique mieux.
Parmi ces enseignants-là, il y a une directrice d'une école. Elle s'est présentée devant les agents de l'Ecobank. On lui répond que l'argent est déjà retiré. Et finalement, il exige la carte de lecteur de la personne qui avait retiré l'argent. On présente la carte de lecteur d'un homme. Pendant qu'elle est une femme, l'Ecobank n'arrive pas à préciser où elle s'allait être retirée par qui. Pour la société civile, ce réseau mafieux doit être déboulonné ou démantelé. Cette pratique doit s'arrêter. Les auteurs doivent être identifiés et définis devant la justice.
Joachim Kusamba affirme qu'une plainte est déposée au tribunal de paix de Gungu pour que ce qu'il qualifie de réseau mafieux soit démantelé. Nos efforts pour avoir la réaction de l'agence Ecobank quant à ce sujet sont restés vains. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Reprise hier lundi des cours dans les écoles du Kasaï oriental, dont les cours ont été suspendus par le ministre provincial de l'EPST. La suspension, qui était prévue pour 3 jours, s'est prolongée à 1 semaine suite aux troubles organisés dans plusieurs écoles par certains élèves et quelques badauds. Certains responsables d'écoles frappés par la mesure de suspension ont interdit depuis hier lundi aux élèves d'emprunter le couloir qui sépare l'Institut supérieur pédagogique et l'Union COP, lieu où l'on enregistre souvent des affrontements entre les élèves des écoles en conflit. Explication Esther Dalafina.
Les élèves de l'Institut technique Nyokop, du Collège épiscopal Saint-Pierre du Bois-Diabouakané, ainsi que ceux de l'EDAP Moulemba, une école d'application de l'Institut supérieur pédagogique, ont repris ce lundi le chemin de l'école après quelques jours d'interruption. Décrétée pour 3 jours par le ministre provincial de l'EPST, la suspension s'est prolongée à 1 semaine car certains élèves et les badauds ont sillonné dans les écoles non concernées par la suspension. Ils ont perturbé les cours dans plus de 30 écoles de la ville avec des jets de projectiles. Quelques écoles, dont le lycée Anwarite, ont même enregistré des dégâts matériels importants, ce qui a poussé d'autres élèves des écoles non concernées par la suspension à rester à la maison par crainte d'être la cible des badauds. Malgré cette reprise, un calme apparent règne aux environs des écoles en conflit. Les responsables de ces écoles ont interdit les attroupements devant les bâtiments des écoles. L'accès au couloir qui sépare les DAP Moulemba à l'Institut technique Ignocop est également interdit. Rappelons que c'est depuis une semaine que les accrochages ont opposé certains élèves de l'EDAP Moulemba à ceux de l'Institut technique Ignocop à la suite d'une dispute entre un étudiant de l'ISP et un élève de l'Ignocop. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Nous allons dans la province du Maniema. 20 élèves finalistes de la première promotion du cycle secondaire du complexe scolaire Mapon ont reçu de la Fondation Mapon une bourse de près de 20 000 dollars américains. Cet argent va permettre leur entrée à l'université. Pour la Fondation, l'objectif de ce geste est de promouvoir l'accès à l'éducation de tous les enfants de la province du Maniema. Les parents des finalistes bénéficiaires de la bourse ne sont pas restés indifférents face à ce geste. Écoutez au micro de Florence Kizalunga.
Vraiment, c'est grave. Du jamais vu au monde. Et je signale auparavant qu'il y a Matata Pogno Mapon, l'honorable sénateur. C'est un homme de vision. Et cette vision, il a voulu incarner ça à nos enfants. Non seulement à nos enfants, mais aussi à la population du Maniema et aussi au monde entier. Il a commencé d'abord par scolariser nos enfants gratuitement depuis la maternelle, le primaire, le secondaire, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nos enfants ont eu des diplômes d'État, de qualité dans des écoles normales qui méritaient d'être en Europe. Il les a fait vêtir de la chaussure à la main chérie. Il nous donne à manger et à boire. De trois, il supporte la scolarité de nos enfants à l'INI Mapon en valeur de 700 dollars chacun gratuitement. Ça dépasse même les dons que Dieu a donné son fils unique.
Prévention de la COVID-19 dans les milieux scolaires. L'UNICEF a remis hier lundi un lot d'intrants au gouvernement provincial du Kasaï central. Ce don est constitué entre autres de thermoflash, de cache-nez, des seaux pour le lavage de mains, les cahiers d'exercice et bien d'autres objets. Le ministre provincial de l'Éducation assurant l'intérim du gouverneur de province du Kasaï central n'a pas manqué de mots face à ce geste de générosité. Blaise Ndongala nous en parle.
Ces intrants seront distribués dans environ 343 écoles sur près de 2000 qui comptent la province éducationnelle Kasaï Central 1. Le directeur provincial de l'éducation se réjouit de ces dons qui, selon lui, permettra de prévenir la COVID-19 dans les milieux scolaires. Léon Tososué a ainsi invité d'autres partenaires techniques et financiers à emboîter les pas de l'UNICEF pour une bonne scolarité en province.
Une occasion pour moi de dire encore une fois à l'UNICEF, toi ça qui dit là. Aux autres partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais, nous vous demandons d'emboîter les pas à l'UNICEF, du moins pour ceux qui n'ont encore rien fait.
Le chef des bureaux de l'UNICEF au Grand Kasaï a indiqué qu'à travers la remise de ses dons, son agence prouve sa volonté d'accompagner l'exécutif provincial dans la lutte contre cette pandémie dans les écoles. Il souhaite que les autorités politiques et scolaires veillent à ce que ces intrants arrivent aux vrais bénéficiaires qui sont les élèves. Benny Krasniki.
À l'autorité locale d'assurer des qualités d'enseignement et d'approprier le message pour faire ce que tous les enfants ont bénéficié dans l'esprit égal.
Pour sa part, le ministre provincial de l'éducation faisant fonction du gouverneur intérimaire a salué l'UNICEF pour ses efforts en faveur de l'éducation des enfants en province de Kananga. Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Les avocats qui assistent les personnes poursuivies pour le meurtre des deux experts de l'ONU au Kasaï ont reçu un appui financier du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. Pour le bâtonnier du barreau du Kasaï central, il s'agit d'un témoignage de reconnaissance pour le travail qu'ils font. Maître Dominique Kambala demande aux avocats de prendre conscience de leur part de responsabilité dans ce dossier. Écoutez-le au micro de Joël Bofengo.
Nous avons réclamé à corps et à cri, un témoignage de reconnaissance. Et aujourd'hui, il y a ce témoignage de reconnaissance à travers les partenaires, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est mobilisé pour qu'aujourd'hui, il y ait un témoignage de reconnaissance en termes d'un appui financier. Je pense que les avocats avaient besoin de ça. Je crois qu'on est arrivé à cette compréhension commune. Ce témoignage, c'est un signe très fort qui permet de pouvoir avancer, aller de l'avant. Il me semble que la ligne droite est désormais ouverte. Il faut qu'il y ait une conscience collective des magistrats, la conscience des avocats, de tous ceux qui interviennent dans cette chaîne, pour se dire que voilà, le procès est suivi à un haut niveau et que tout le monde attend les résultats, que justice soit rendue, et que les avocats devaient prendre conscience de leur part de responsabilité dans la chaîne pénale, dans les maillons de la chaîne, pour comprendre que c'est toute l'humanité qui regarde.
Il faut savoir que le déroulement de ce procès a quelque peu été perturbé cette dernière semaine par l'absence des conseils des prévenus qui, d'après le bâtonnier, réclamaient des indemnités des avocats à titre d'aide légale. L'autorité urbaine de Béni a rappelé la population de sa juridiction que les numéros verts existent et qu'ils ont été mis à leur disposition pour toutes les alertes de sécurité. Ce rappel intervient après avoir constaté une criminalité grandissante dans la ville, caractérisée par le banditisme à main armée. Pour Modeste Bakwanamaha, l'utilisation de ces numéros verts aidera les services habilités à bien faire leur travail. Le maire adjoint de la ville de Béni, au micro de Marc Marou.
Nous déplorons les cas de vols à main armée qui s'opèrent à gauche et à droite, malheureusement sans alerter les services spécialisés. Nous voudrions rappeler le numéro vert qui est là pour la population, et quand c'est chez le voisin où ça ne va pas, ce sont les gens qui entourent la parcelle qui peuvent alerter les services. Puisque quand on est à face des bandits, on ne sait plus appeler. Donc nous voudrions rappeler à la population l'usage du numéro vert. Et ne pas avoir ces numéros verts, c'est qu'on n'est pas disposé à soutenir les actions de sécurité de la ville de Béni. Et chacun qui a un téléphone doit garder son numéro vert dans son téléphone. Et quand ça ne va pas, même chez le voisin le plus lointain, c'est à vous d'alerter les services ou les autorités pour dire « venez secourir notre compatriote qui est à détresse ». Ce banditisme urbain, nous devons y travailler pour arrêter tous ces criminels et qu'ils répondent de leurs actes.
Et au regard de l'insécurité grandissante dans certaines entités du territoire de Béni, la société civile a présenté une requête à la MONUSCO, celle de mettre en place un système d'éclairage public pour empêcher l'ennemi de se mouvoir. Noëlla Katongiroaki, présidente de la société civile de Béni, l'a dit lors de la remise vendredi dernier du projet d'éclairage public aux populations des axes Benimbao, Masulukwede et Linzo Kebikeba. Au même moment, elle plaide pour le renforcement des capacités des militaires engagés sur la ligne de front dans la région pour mener à bien le combat contre l'IDF. Noëlla Katongiroaki au micro de Guylaine Kassassia.
Sincèrement, nous disons merci à la MONUSCO d'avoir financé ce projet. Oui, ces éclairages, ça faut du bonheur aux côtés de la population, mais si ça pourrait s'étendre dans tous les territoires, ça va donner de l'impression meilleure aux côtés de la population. Et je crois même des rumeurs aux côtés de la MONUSCO va peut-être prendre fin si vous allez même au niveau de Kisima à Lungupa. Même à Maïmoya, à Mamove, où l'ennemi entre de temps à autre, si vous pouvez éteindre ce projet, nous vous demanderons de faire le mieux pour protéger cette population longtemps meurtrière. À part ça, nous demandons à la MONUSCO de plaider pour le renforcement des capacités de nos militaires qui sont engagés sur les lignes de front, parce que c'est à partir de là que la population aura sa paix durable et va vaquer normalement dans ses activités.
Actualité internationale.
À l'international, nous allons au Soudan. Pour la toute première fois dans l'histoire du Soudan du Sud, une femme devient présidente du conseil d'administration d'une université suite à un décret présidentiel diffusé dans les médias d'État. Aout Deng Akwil a été nommée à la tête du conseil d'administration de l'université de Bahr El Ghazal dans l'ouest du pays. Cette femme de 57 ans était ministre de l'éducation depuis février dernier. Une fois de plus, son parcours fait la promotion de l'égalité des genres dans le pays. Après l'élection présidentielle et législative au Burkina Faso, l'opposition met en garde contre des résultats entachés d'irrégularité. La commission électorale a suspendu la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle l'avait commencé à le faire depuis hier lundi à partir de midi. Cette décision a été prise après une déclaration de 7 candidats signataires de l'accord politique de l'opposition qui avaient publié une déclaration pour mettre en garde la CENI. Ils ont aussi émis de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité de ces résultats, dénonçant le caractère massif des irrégularités et insuffisances.
L'invité.
Le territoire de Lubero occupe 80% de la côte ouest du lac Édouard, mais il n'existe aucune route donnant accès à l'intérieur de ce territoire à partir du lac. Une situation qui engendre de graves conséquences aussi bien sécuritaires que économiques. Richard Nyimbo, administrateur du territoire de Lubero, a exprimé cette inquiétude à Radio Okapi. Il s'entretient à ce sujet avec Florida Kaambu.
Messieurs l'administrateur, bonjour.
Bonjour Floride.
En territoire de Lubero, il y a les transporteurs de poissons qui font face et aux problèmes des routes. Entre-temps, d'ailleurs, ils sont en grève pour protester ce qu'ils appellent tracasserie routière. Quelle est la situation dans les Lubero?
Oui, ce qu'il faut retenir est que le territoire de Lubero occupe plus de 80% du lac Édouard du côté ouest du lac. Et le contraste qui est là, quand vous regardez très bien, nos amis de Beni, ils arrivent par véhicule à travers Kavinyonge. Nos amis de Rutshuru, ils arrivent au lac par véhicule à travers Vichumbi. Mais Lubero, il n'y a aucune voie routière pour que le véhicule arrive au niveau du lac Édouard. Alors, pour ça, nous avons déjà travaillé avec plusieurs personnalités. Et du côté nord, à ce jour, la route qui passe jusqu'à Bukununu, il ne reste qu'une affaire de 13 km pour accéder au lac. Et du côté sud du territoire, la route passe par Kikubo, Kamandijit, il nous reste une affaire de 14-15 km pour accéder au lac Édouard, ce qui va permettre de désenclaver toutes ces entités qui sont au Graben du côté Lubero, et ça nous permettra aussi de lancer le développement des entités comme Kirumba, Kaina, Kanyabayonga et voire même Kipese. C'est ça le plaidoyer majeur, parce qu'aujourd'hui les gens en parlent, mais ce qui est vrai, le territoire est déconcentré. Nous avons des entités décentralisées, la chefferie, le cas de Lubero et quelques communes qui font payer des taxes, mais le territoire n'a pas de taxes. Vous comprenez un peu ça? C'est un grand problème, mais un grand défi aussi. C'est pourquoi nous faisons un appel et aux autorités et à tous les partenaires qui cherchent à aider notre territoire à penser d'abord au traçage de cette route-là. C'est vraiment quelque chose qui est inadmissible. C'est nous qui avons plus de 80% côte du lac, mais on n'accède pas par véhicule. Ça, c'est un 2D. Bon, concernant ce qui se passe par rapport à la grève de nos amis, j'ai déjà commencé le pourparler avec le président de leur comité. Nous allons voir comment échanger avec les uns et les autres pour recadrer un peu la chose. Ça, c'est un, parce que nous avons nos forces de l'ordre qui sont de l'autre côté. Par rapport à cet état de la route, ils se retrouvent même leur ration pétrinée au niveau de Kirumba, au niveau de Lubero. Vu l'état de la route, nous enregistrons beaucoup de problèmes là-dessus. C'est pourquoi nous sommes rassurants que les échanges évoluent très bien. D'ici quelques heures, nous allons trouver la voie de sortie et les transporteurs de poissons vont continuer à travailler en toute quiétude.
Si on prend l'axe routier entier, on peut avoir combien de kilomètres?
Oui, au fait, il y a beaucoup de bretelles là-dessus. Mais ce qui est prépondérant et nécessaire pour l'instant, c'est ce que je viens d'étayer tout à l'heure. C'est-à-dire, il est vraiment impérieux qu'il y ait une route praticable de Kamandijit à Kamandilac. Il faut que les véhicules arrivent au lac. Ça, c'est un. C'est très important pour le développement. C'est ce qui est important aujourd'hui pour Lubero. On n'a pas besoin de racontaires inutiles, mais ce qui nous cadre, ce qui concerne le développement de toute cette population-là qui occupe la grande partie du sud-est du territoire de Lubero, c'est l'accès au lac. Ça va nous aider à faciliter beaucoup de choses là-dessus.
Alors, à votre niveau, est-ce que vous avez programme de désenclaver à cette zone?
Oui, nous le faisons. Nous nous donnons juste des orientations. Nous le faisons parce que récemment ici, vous savez, la route Butembo-Kanyabayonga était totalement fermée. Mais quand nous avons échangé avec l'autorité provinciale, le gouverneur a compris, il a choisi un attributaire de haute facture et aujourd'hui quitter Lubero ou bien Butembo à Goma, c'est quelques heures, vous êtes déjà à Goma. C'est déjà un pas, mais ça c'est la route principale. Mais il nous faut aussi des routes secondaires pour permettre au déplacement, pour permettre l'évacuation des produits vivriers.
Alors est-ce que vous avez des moyens vraiment pour y arriver?
Comme j'ai signalé tout à l'heure, nous en tant que territoire, on est déconcentré, on n'a pas de moyens. Mais qu'à cela ne tienne, nous faisons ces plaidoyers et à travers votre micro et les pouvoirs centrales et l'autorité provinciale et toutes les personnalités du Grand Nord qui nous écoutent, ils vont aussi penser comme ils l'ont fait pour Beni. Je crois bien ils le feront aussi pour Lubero. À ce stade de débat, il n'y a aucun partenaire qui est là par rapport à ces projets, mais nous estimons que comme nous avons lancé ces projets, nous avons créé des petits comités au niveau local pour commencer d'abord avec des travaux d'une manière un peu locale, mais nous attendons ceux qui nous écoutent à travers vos ondes, à travers nos écrits, espérons qu'un jour on trouvera un partenaire qui va aider tous ces jeunes-là qui sont nés dans les grabins de Lubero de voir aussi le vécu descendre là-bas. Je crois que c'est très important.
Monsieur l'administrateur, merci.
C'est moi qui vous remercie, Floride.
Richard Nyembo, administrateur du territoire de Lubero, l'invité de Radio Capi, répondait aux questions de Florida Kambou. Et c'est la fin de ce journal. Vous voulez le réécouter, tapez www.radiocapi.net.